Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
17 sur RMC, on démarre tout de suite avec l'actualité du jour et c'est la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, Sarah El Haïry, qui appelle à ouvrir le débat sur la GPA, la gestation pour autrui. Si elle est autorisée dans certains pays, elle est strictement interdite en France, même si chaque année, des centaines de couples français partent à l'étranger pour y avoir recours, Paul.
Oui, même si le recensement est assez compliqué à effectuer, on estime à environ 300 le nombre d'enfants français nés chaque année d'une GPA à l'étranger, avec une destination particulièrement prisée, les États-Unis, qui figurent à la première place des pays vers lesquels se tournent les couples à la recherche d'une mère porteuse. Alors, la filière y est très sécurisée, mais c'est aussi la plus chère, avec une facture qui peut grimper jusqu'à 150 000 euros par enfant. D'autres pays, comme Israël par exemple, ont récemment changé leur législation pour l'autoriser, là aussi, très strictement. Et alors que ce débat politique pourrait s'installer en France, c'est la volonté de la ministre Sarah El Haïry. Des décisions importantes ont été prises au niveau européen la semaine dernière. Les eurodéputés ont adopté une révision de la directive contre le trafic d'êtres humains afin d'inclure dans la liste des crimes l'exploitation de la gestation pour autrui. Alors attention, le Parlement européen ne fait pas pour autant de cette gestation pour autrui en tant que telle, une forme de traite d'êtres humains, mais elle veut sanctionner directement les réseaux illicites qui, je cite, forcent ces femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à agir ainsi par la ruse. L'UE annonce que des sanctions fortes seront prévues pour les entreprises reconnues coupables de ces trafics.
Alors, faut-il ouvrir le débat sur la GPA en France? Je vais commencer avec vous, Perico Légas.
C'est le débat du siècle, avec deux lectures possibles. Soit on est hostile au principe de la gestation pour autrui, soit on est hostile au fait que deux êtres d'un même sexe puissent avoir des enfants. Moi, je suis favorable, et j'en fais un combat, peu importe ce que j'en fais, c'est partagé par des gens, par les humanistes, deux êtres d'un même sexe ont le droit d'avoir des enfants. Voilà. Ensuite, la GPA, ça passe par l'utilisation du ventre d'un être humain,
oui,
dans des conditions qui peuvent être quelquefois contestables. Pas toujours, quelquefois, il peut y avoir consentement.
C'est très réglementé, hein. Bien sûr qu'il y a consentement.
Oui, mais ensuite, il y a la détresse humaine. Il y a la détresse d'une femme qui a loué son ventre et qui sait qu'elle a un enfant qu'elle a créé qui n'est plus à elle. C'est un enfant qui, un jour, apprend qu'il est le fruit d'un ventre loué.
Oui.
Si on lui dit la vérité. Bon, on n'a pas les réponses encore à tout ça.
Oui,
moi, j'ai côtoyé un drame.
D'accord. Moi, j'ai vu des enfants nés sous GPA qui sont très, très heureux.
Oui, je ne parle pas de cela, c'est formidable.
Mais oui, mais si
c'est 100% des cas, il n'y a pas de débat, c'est réglé.
Sur la mère porteuse, bien sûr qu'il y a débat. Mais sur les enfants, en vrai, c'est des enfants qui sont choyés, qui sont désirés, etc.
Estelle,
il
n'y
a pas de débat sur les enfants, il y a des débats sur la mère porteuse.
On ne sait pas. Il y a des enfants qui peuvent mal le vivre. Et alors, Non, le débat sera ouvert en permanence. Il faudra trancher un jour. Sauf que ça touche à quelque chose de la bioéthique de fondamental. Ça touche à la vie, ça touche à la maternité. Je ne parle même pas de paternité. Ça touche au rôle de la mère. Est-ce qu'une femme peut se louer pour le bonheur d'un couple qui a besoin d'enfants?
Et la femme est d'accord.
Oui, mais on ne sait pas les conséquences après. Si voilà, je suis pas femme, je peux pas vous dire. Vous
êtes aux États-Unis, t'as un contrat entre le
mère.
Couple et la mère porteuse.
Je ne peux pas vous demander. Est-ce que vous le feriez peut-être pour une amie? Oui, vous venez d'Italie.
Non, je le ferai pas. Mais non, je le ferai pas.
70 ans, qui avait prêté son ventre à sa fille. C'est extraordinaire.
Moi, je ne le ferai pas. Bien sûr que non, je ne le ferai pas. Et en vrai, on va dire, philosophiquement parlant, je suis contre.
Voilà.
Mais j'ai des couples d'amis qui ont eu des enfants nés sous GPA. Les enfants sont très heureux. Après, philosophiquement, je suis contre, effectivement. Mais ces enfants sont heureux. Et ça aussi, il faut le dire.
Ça, c'est la face du problème qui va bien, positif, formidable, merveilleux, ça amène le bonheur.
Mmh.
Et puis, il y a l'autre où on n'a pas résolu le problème et il n'est pas acceptable.
En Israël, ce n'est pas monnayé, par exemple.
Je sais bien, Estelle, il n'est pas acceptable que parce qu'on a un doute là-dessus, on se fasse traiter d'homophobe. C'est tout. C'est un problème humaniste.
Non, mais ça, c'est autre
chose. Qu'on soit chrétien, musulman, juif, athée.
Il y a des couples hétérosexuels qui ont recours à la GPA.
Il y a un problème humain, il y a le respect. Mmh. Moi, je suis dans le respect de la femme.
Très bien.
Et si j'ai le moindre doute sur le fait qu'une femme puisse mal le vivre ou ne pas être respectée, à ce moment-là, je demande à ce qu'il y ait débat et qu'on éclaircisse le problème dans la sérénité la plus totale. Mais ne fermons pas le débat.
Après, je vais me faire l'avocat du diable. Aujourd'hui, les couples de lesbiennes peuvent avoir recours à la PMA et peuvent avoir des enfants.
Oui.
Aujourd'hui, effectivement, les couples de gays garçons, c'est plus compliqué. T'as ce que je veux dire.
Un cas de figure où la femme a une supériorité sur l'homme. On va s'en réjouir. C'est comme ça. C'est la nature qui le veut.
Alors,
c'est formidable. Et que deux papas aient envie d'avoir un bébé connais des cas, c'est formidable, sauf que ça passe par l'intermédiaire d'une femme qui est un être humain, qui a le droit à tout respect, toute précaution pour elle et pour l'enfant.
Robert Sebag, évidemment, je me tourne vers vous qui êtes médecin. Je sais que c'est un sujet extrêmement délicat, c'est un sujet qui divise, même si, effectivement, Paul l'a rappelé, voilà, aujourd'hui, l'Europe dit non. Hein.
Je suis extrêmement mal à l'aise sur ce sujet et je vais essayer de répondre pour oublier un petit peu les problèmes éthiques que ça me pose sur faut-il ouvrir le débat ? Mais le débat, il est ouvert, il est déjà là. Je vais vous faire un tout petit peu d'histoire. Il y a eu le PACS d'abord. Et au moment du PACS, on a dit, attendez, la ligne rouge, c'est le mariage pour tous. Hein.
Madame Taubira a dit, ça n'ira pas plus loin.
Ça n'ira pas plus loin. Le PACS. Ensuite, on a dit le mariage pour tous. Mais ne vous inquiétez pas, le mariage pour tous, ça s'arrêtera là. Il n'y a pas de PMA, il
n'y
a pas de problème, on verra. Sans parler des problèmes de filiation.
Mais le mariage, il est pour aujourd'hui,
c'est formidable.
Et la troisième étape aujourd'hui, ben, elle était normale. Tout le monde a dit, mais non, écoutez, s'il y a la PMA, pourquoi deux couples de femmes lesbiennes, elles ont droit, et pourquoi deux couples hommes, un couple homme n'a pas le droit à ça? Alors, donc déjà, le débat, il est ouvert, et le débat, il va se faire. Et puis en plus, si vous voulez, quand Madame Taubira a donné la nationalité française à des enfants qui sont nés à l'étranger. Donc déjà, on a ouvert la porte. Ça veut dire que la GPA, vous pouvez l'interdire peut-être dans notre pays, mais ça n'empêchera pas des gens, puisque de toute manière, l'enfant qui va naître par GPA à l'étranger, il y a une jurisprudence comme quoi...
L'Angleterre a ouvert uniquement pour les Anglais, par exemple.
Oui, d'accord. Mais bon, c'est déjà... Tu vois. Alors moi, j'ai le vrai problème, si vous voulez, que ça me pose, tu l'as dit, Perico, c'est une femme, la mère porteuse, qui pendant 9 mois, vous savez ce que c'est que d'avoir une grossesse, un enfant qui va grandir.
Oui, je sais bien, oui.
Voilà. Et puis tout d'un coup, on va dire, ben madame, c'est terminé. Merci.
Oui, mais elle le sait, la mère porteuse, c'est un contrat.
Vous ne pouvez pas modifier les sentiments.
C'est pas une machine.
Vous ne pouvez pas modifier la perception.
C'est pas un animal.
Il peut y avoir un attachement qui se fait. Ça me fait extrêmement, extrêmement mal.
C'est pour ça que tu as des couples qui prennent à la fois une mère qui va donner ses ovules et à la fois une mère porteuse, en fait. Pour éviter justement l'attachement dont tu parles.
Et alors, si vous voulez, le président de la République lui dit c'est la ligne rouge,
il est con.
Mais on s'aperçoit que des anciens secrétaires d'État, M. Bonne, Amel Ayri, secrétaire d'État, s'en disent. Donc le débat, il est là. Il est là et il va être réglé. Alors après, marchandisation, pas marchandisation, bénévolat, pas bénévolat. Moi, ça me fait un tout petit peu peur. Mais si vous voulez, que quelque part, c'est la remise en cause de la structure familiale telle qu'on la connaissait dans le passé. Un homme, une femme, des enfants. Et là, aujourd'hui, ça change.
Oui,
la structure familiale est en train de changer.
J'ai connu un cas extraordinaire.
C'est quand même la majorité.
J'ai connu un cas extraordinaire avec GPA fait avec une amie. Du coup, l'enfant, il avait deux papas et puis sa maman qu'il voyait. C'est extraordinaire. Les deux papas ont divorcé, le papa, le vrai, le géniteur, s'est remarié avec un autre papa et la maman s'est remariée. Donc il avait à la fin 3 papas et 3 mamans.
Oui,
donc,
moi je connais un enfant qui est né avec 2 papas, il y a 2 papas, 2 mamans et ça se passe très bien.
Oui, d'accord, mais ça se passe mal.
Il faut faire très attention.
Daniel Riolo, est-ce qu'on a raison? En fait, le débat il est ouvert, Robert, il a raison et finalement c'est le tweet aussi de Marion Maréchal Le Pen qui a fait s'enflammer les réseaux là-dessus, mais est-ce qu'on a raison d'en débattre dès lors que c'est une pratique interdite?
Alors déjà, je vais essayer d'être un petit peu concret, puisque Robert parlait tout à l'heure des frontières qui une à une sont tombées. Et effectivement, on a tous en mémoire le « ça n'ira pas plus loin, ça n'ira pas plus loin, ça n'ira pas plus loin ».
Pourquoi prétendre?
À partir du moment où toutes sont tombées, pourquoi faire tomber les suivantes? Les suivantes seront celles de la soi-disant éthique qui devrait protéger cette pratique. Or, on sait très bien qu'à partir du moment où elles tomberont, les autres tomberont et qu'on ira vers des entreprises et qu'on ira à 100% vers la marchandisation. Si quelqu'un qui veut avoir recours à la GPA m'assure à 100% qu'il ne choisira pas la mère porteuse, je ne le croirai pas. Évidemment qu'on choisira. On n'ira pas prendre une mère porteuse malade, grosse, moche, qui n'aura pas les yeux comme il faut, qui n'aura pas l'ADN comme il faut. Tout ça, c'est du pipeau et du mytho. On nous ment sur cette histoire-là. Pour l'instant, c'est réservé à des riches qui peuvent choisir et payer pour leur enfant.
Oui,
moi, je ne parle même pas de ce dont tu parles, Estelle. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il n'est pas heureux? Moi, j'en doute pas de ça. Moi, je veux même pas... En fait, tomber dans la caricature du débat qui se profile et qui va s'offrir à nous, à savoir, comme c'est Marion Maréchal qui l'a dit, alors c'est le diable et alors forcément il faut aller contre son idée.
Personne n'a dit ça, Daniel.
On y va, Estelle.
À partir du moment où c'est elle, tu l'as dit toi-même, qui a enflammé les réseaux, évidemment que être contre cette idée, ça va te ranger dans la catégorie facho.
Jean-Luc Mélenchon est contre la GPA, par exemple. Il a dit qu'il était pour la reconnaissance des enfants.
On a des gens dont la religion interdit cette pratique-là.
Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'il est pour la reconnaissance des enfants, mais il dit, c'est une position qui est très paradoxale, mais qui est partagée par beaucoup de monde, c'est on reconnaît les enfants qui sont nés par GPA, on les reconnaît, mais il est contre philosophiquement la GPA, et c'est la position de beaucoup de gens.
C'est pas que philosophiquement, moi, je veux bien qu'on fasse des grands débats, des grands principes, juste poser les questions concrètes. On me dit éthique, pas éthique. Ok, éthique, ça veut dire en gros... on va contrôler que ce soit pas, c'est quoi en fait, c'est qu'il y a pas un business derrière, c'est qu'on n'est pas acheté à quel prix. Oh d'accord. Bon alors,
ça, si
c'est éthique, comment on va choisir le dossier? À qui on va dire t'as le droit, t'as pas le droit? Ah c'est parce que vraiment tu peux pas avoir d'enfant, mais à quel degré? T'as essayé d'autres trucs et tout. Donc il va falloir classifier tout ça. Le dossier, c'est quoi? C'est remboursé par la sécurité sociale? Éthique.
Bah oui.
Donc remboursé par la Sécu. Mais d'accord.
En Israël, c'est remboursé par la Sécu.
Est-ce que les Français seront prêts à ce que la sécurité sociale rembourse également ça? Mais elle va rembourser quoi en fait? Le fait que la maman, qu'une femme ait accepté pendant 9 mois, donc elle va consacrer 9 mois de sa vie. Donc, tu sais ce que c'est une grossesse? Nous, on le sait pas. 9 mois de ta vie, tu fais gaffe à peu près à tout quand même. Si tu veux qu'un enfant soit quand même en bonne santé.
Donc, c'est chiant.
Ça va avoir un coût.
Est-ce qu'il y a un suivi?
Ça va avoir un coût. La femme, il va falloir la payer, il va falloir qu'elle fasse attention, il va falloir quand même.
Donc,
qu'elle passe des examens,
et ça. Contrôle technique et tout.
Mais il faut qu'elle soit payée pour ça parce qu'elle va arrêter son boulot. Enfin,
Donc, elle ne le fera pas gratuitement.
Donc, il y a un contrat.
S'il y a un contrat, comment veux-tu qu'on évite la frontière qu'on fera tomber de la marchandisation et du business? C'est impossible en fait.
Et tu vas devoir payer cette dame, en tout cas lui payer ses soins médicaux, ça c'est sûr.
Posons les questions concrètes et vous allez voir que effectivement on va vers tout ça. Pour moi c'était des débats d'ailleurs qui existent depuis des années et qui étaient réservés à la science-fiction. C'était les films. Vous avez tous vu ce chef-d'œuvre qui est Gattaca, où effectivement, en fonction de l'ADN, on fait le choix, comme on va dans une comme on pousse la porte d'un bureau avec une personne qui a une blouse et on lui dit, moi j'aimerais que l'enfant il ait les yeux bleus, que effectivement s'il est malade ou si la mère elle est porteuse de quelque chose qui va pas, non, je la choisis pas elle. Donc on fera des catalogues.
Daniel, excuse-moi. T'as aussi des couples aujourd'hui qui se posent la question parce que la mère a une maladie génétique. Est-ce que je vais avoir un enfant ou pas parce que j'ai le risque de lui transmettre. T'es pas obligé d'avoir une GPA pour se poser ces questions.
Sauf que là, tu entreras dans le cadre d'un choix. Donc c'est pas uniquement la mère, on va dire traditionnelle. Tu seras obligé de monter un catalogue. Avec le prix, est-ce que tu peux payer 100 000? Est-ce que tu peux payer 150 000?
Daniel,
à 200 000, t'auras la perfection. Attends. T'auras un ADN purifié. Dans l'eugénisme, c'est obligatoire.
Aujourd'hui, c'est plutôt 180 000 de toutes les manières.
Ce que vient de dire Estelle, ça me paraît très important, c'est qu'une majorité des GPA aujourd'hui, il s'agit de couples hétérosexuels.
Exactement.
Pour les raisons.
Mais moi, je trouve qu'il faut sortir du débat le fait que ce soit homosexuel, hétérosexuel. Pour moi, ça n'a pas.
On doit le dire aussi, ça.
Oui.
C'est hyper important,
en fait,
bien sûr.
Tu limites le débat si tu fais ça, parce que tu vas ouvrir la porte au débat sur l'homophobie, ces choses-là. Alors qu'au fond, on s'en fout.
C'est pour ça qu'on rajoute qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité des couples qui ont recours à la GPA...
Oui. Je ne vois pas ce qu'apporte cette précision.
Je le précise parce que Marion Maréchal Le Pen, par exemple, son tweet, il est là-dessus au départ.
Mais en fait, la GPA,
elle est pour.
Sinon, on va limiter le débat. On va enfermer le débat dans quelque chose qui va devenir politique. Alors que ça ne doit pas l'être.
Mais c'est le débat et le droit à l'enfant. Est-ce qu'il existe un droit à l'enfant?
Bon. On a plusieurs invités sur ce débat et plusieurs auditeurs qui veulent réagir. On va commencer avec Romain. Romain, lui, il a eu deux enfants par GPA, une petite fille de 16 ans et un petit garçon de 4 ans. Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le parcours d'une GPA, vous êtes français, vous vivez avec votre mari depuis 23 ans, vous avez fait le choix d'avoir une petite fille il y a 16 ans. Désormais, comment ça se passe quand on veut avoir recours à la GPA, vu que c'est interdit en France?
Alors déjà, la GPA est interdite en France, effectivement, mais elle n'est pas...
Romain, on vous entend très très mal, il faut parler vraiment plus près de votre combiné.
Oui, je disais en fait que là, vous m'entendez mieux là ou pas?
C'est bof, ça grésille pas mal.
Ça grésille pas mal, je suis désolé.
Là, c'est bien.
C'est mieux, là.
Je disais en fait qu'effectivement, la GPA n'est pas interdite dans les pays où elle est pratiquée, comme le Canada ou les États-Unis, dans les pays qui la pratiquent de façon éthique. Elle n'est absolument pas interdite. Elle est interdite sur le sol français. Ce qui est interdit, c'est de rapporter effectivement ce processus sur le sol français. Il n'y a pas de GPA sur le sol français aujourd'hui. Donc, il n'y a rien d'interdit dans ce qui se produit.
Comment ça se passe en fait quand on se dit bon bah voilà on va avoir recours à la GPA, on va avoir un enfant par GPA, comment ça se passe, combien ça coûte Romain?
Bon, alors je pense que c'est réducteur de passer directement à la question de l'argent en fait par rapport à ça.
Bon, en fait il y avait deux questions.
Oui, ce que j'aime pas justement là-dessus, c'est que souvent c'est du sensationnalisme en fait lorsqu'on répond sur des questions sur la GPA. Et je voudrais juste revenir une seconde parce que j'entendais les personnes qui discutaient avec vous pendant le débat il y a quelques minutes. Et effectivement, j'ai entendu pas mal de choses qui étaient assez incorrectes en tout cas. Et j'aurais aimé revenir déjà sur la première chose, c'est qu'en fait, on parlait de GPA, mais le débat a très très vite été orienté sur une GPA qui serait uniquement homosexuelle.
On l'a recentré.
Vous aviez parlé effectivement du PACS, c'est ensuite après le PACS il y a eu le mariage, après le mariage on a dit qu'on n'aurait pas les droits à la GPA, etc. Donc ça oriente uniquement sur les GPA homosexuels. Or, vous l'avez rappelé très justement, la GPA, d'une façon majoritaire, sont des hétérosexuels qui la font. Donc oui, quand Marion Maréchal Le Pen fait un tweet sur la GPA et qu'elle cible immédiatement une famille homoparentale, elle le fait sous couvert un petit peu d'homophobie.
J'entends Romain, mais là,
Ronaldo, ou sur Sharon Stone, ou sur toutes les personnalités qui sont aussi médiatisées et qui médiatisent leur GPA.
Romain, je l'entends, mais est-ce que vous pourriez nous dire quel est le parcours? Parce qu'en fait, le parcours, il n'est pas du tout facile. Voilà, pour un couple qui a recours à une GPA. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours?
Le parcours, effectivement, il n'est pas simple. Moi, aujourd'hui, ma fille a 16 ans. Le parcours, en fait, pour avoir ma fille, donc il y a 16 ans, il a duré 4 ans. Donc, en fait, c'est un parcours qui a commencé il y a 20 ans, plus exactement. Ensuite, j'entendais dire aussi que en fait, on pouvait imposer ou forcer une femme à faire de la GPA. C'est totalement faux parce que...
Non, mais Romain, votre parcours...
Oui, ben dans mon parcours, donc justement, on s'adresse à une agence effectivement qui propose en fait des dames qui ont accepté de porter l'enfant d'un autre couple, que ce soit hétéro ou homosexuel, et en fait, ce sont elles qui choisissent. Elles ont parfois 8 dossiers et elles décident soit d'en choisir un, soit de ne pas en choisir du tout. En fait, je veux dire, faut pas travestir la parole des femmes à ce niveau-là.
Non, mais c'est très bien de le rappeler, justement.
Et pourquoi elles le font?
Un de vos chroniqueurs, je crois Robert de mémoire, pardon, si je me trompe de prénom, qui disait effectivement, on ne choisirait jamais une mère porteuse qui était grosse ou qui était moche. Mais c'est faux parce qu'en fait, une mère porteuse, ce ne sont pas ses enfants génétiques. Donc en fait, il n'y a pas de choix en fait qui est conditionné au physique sur une mère porteuse. Alors si vous voulez, oui, pour la donneuse d'ovocytes, effectivement, il y a une condition de physique, mais c'est complètement autre chose.
Il y a les deux.
Romain, on vous a perdu.
Vous m'entendez toujours?
Oui, allez-y.
Oui, je disais qu'en fait sur les on peut choisir facilement de prendre une mère porteuse qui soit en surpoids ou qui ne le soit pas ou qui soit pas physiquement agréable ou qui le soit. En fait, ça n'a pas
une maladie ou un truc comme ça.
Enfin, on peut ne pas la choisir surtout.
On peut ne pas la choisir aussi si on veut.
Non mais attends, juste vous, Romain...
Ce que je
veux
vous expliquer, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de critères physiques, en fait, ou sur une mère porteuse, puisqu'en fait, elle n'est pas biologiquement, en fait, reliée.
On peut dire non.
Je veux pas de celle-là. Non mais médicalement, je veux répondre médicalement, Estelle.
Alors, encore une fois, la personne qui m'a répondu, on peut dire non, en fait, c'est faux.
Il venait d'où l'ovocyte, si ces deux hommes?
Ce n'est pas nous, c'est
notre mère.
On demande une.
On peut demander à la mère d'utiliser son ovocyte aussi.
Pas tous en même temps. Romain, après, j'imagine effectivement que, par exemple, si vous avez les yeux bleus, bah, vous allez demander plutôt une mère qui a quand même les yeux bleus, enfin voilà, d'un physique, je ne vais pas dire ressemblant au vôtre, mais peut-être pour qu'il y ait moins de questions, j'en sais rien.
Oui, vous parlez de la donneuse d'ovocytes dans ce
cas-là.
Exactement. C'est complètement différent, en fait, puisque les donneuses d'ovocytes sont effectivement des personnes qui sont rémunérées pour donner leurs ovocytes, c'est-à-dire leurs ovules.
Tout à fait.
Et donc, effectivement, il y a un critère physique qui correspond aux familles, aux demandes des familles à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de génisme, il n'y a pas de régulation.
C'est le risque qui est en train d'y aller.
Romain, juste sur la mère porteuse, alors, pour le coup, comment est-ce que vous la choisissez? Est-ce que c'est au hasard? On va dire comment ça se passe?
C'est elle qui nous choisit. C'est,
d'accord,
encore une fois, je tiens à ce que vous compreniez.
Oui,
ça.
C'est très important.
Ce ne sont pas les candidats à la GPA qui peuvent choisir les mères porteuses, ce sont les mères porteuses qui choisissent.
Et qu'est-ce qui empêchera que ce soit l'inverse, monsieur? Qu'est-ce qui empêchera à terme qu'on fasse dans l'autre sens?
Alors, monsieur, justement, il faut pas être dans l'abolitionnisme, en fait. Il faut réguler les choses. Il faut permettre, effectivement, on a la chance en France d'avoir une loi qui s'appelle la loi bioéthique, qui permet aujourd'hui le don de gamètes, le don de spermatozoïdes. Alors, pourquoi ne pas envisager qu'une sœur puisse donner à sa sœur, effectivement, la possibilité d'être enceinte gratuitement, parce que c'est basé sur le don. On a cette chance-là.
On évite,
effectivement, de tomber dans des caricatures de ce qui se produit aujourd'hui. Vous savez, vous parliez de la GPA aux États-Unis ou au Canada parce qu'elle est légale là-bas et parce qu'elle se pratique de façon éthique, mais il y a des pays en Europe qui la pratiquent de façon éthique. L'Angleterre, vous l'avez rappelé, c'est Denis, mais la Grèce également, mais le Danemark aussi, et la Belgique aussi. Est-ce que vous croyez que ces pays qui ont donc accepté de légiférer sur la GPA depuis des années maintenant ne seraient pas revenus dessus s'il y avait un problème au niveau dont vous parlez?
Merci en tout cas, Romain, d'avoir été avec nous, et merci beaucoup pour ces précisions. Et voilà, la question c'était faut-il ouvrir le débat pour Romain? En tout cas, je voudrais lire également le témoignage d'Arnaud qui nous appelle les Alpes-Maritimes. Mon mari et moi avons eu un enfant l'année dernière aux États-Unis par GPA. Ça nous a coûté 180 000 euros payés cash suite à un héritage. C'est la mère porteuse qui nous a choisi. La GPA n'est pas réservée qu'aux couple homosexuel, donc c'est un peu la même chose que Romain, bien faire cette précision. Et vous avez plein de messages également sur l'appli RMC, Paul.
Oui, les avis sont très partagés sur Direct Studio, je vais vous en sélectionner deux. Julien, qui lui nous dit, pour moi qui était adopté à 14 mois, la GPA a l'avantage d'être une adoption programmée du début à la fin. On doit avoir ce débat, mais avec le pays qui s'extrémise à gauche ou à droite, ça ne va pas être facile. Et enfin, Sylvie, elle est totalement contre. Elle dit, pour la GPA, ce n'est pas compliqué. Le grand oublié, c'est l'enfant, qui dans la GPA n'est pas qu'un objet de désir. On passe de l'enfant roi à l'enfant objet. Ça n'est pas de l'amour.
Alors, on a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il ouvrir le débat sur la GPA?
Eh bien, vous répondez non pour 56% d'entre vous.
Ouais, mais ça veut dire qu'il y a 44% de oui.
Ça veut dire qu'il y a débat.
et ça veut dire qu'il faut l'ouvrir. Après, peut-être qu'on le refermera très vite. Mais en tout cas, manifestement, il va falloir l'ouvrir quand même.
L'euthanasie à 70 ans, on dit oui.